VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel au Nigeria. Un nouveau groupe armé a mis ses menaces à exécution en revendiquant l'explosion d'un important héléoduc dans le sud du pays par un communiqué diffusé mercredi soir. Le Niger Delta Greenland Justice Mandate, dont la création a été annoncée il y a à peine 2 jours par la voix de son porte-parole, le général Aldo Agbalaja, avait menacé de s'attaquer aux installations pétrolières nigérianes dans les prochaines 48 heures. Une source au sein des forces de sécurité locales a confirmé qu'une attaque avait bel et bien eu lieu sur une ligne de l'oléoduc sur le tronçon Ouzéré-Eriomo. Près de 7 millions de Zambiens aux urnes aujourd'hui pour élire leur président, un scrutin à l'issue incertaine où 2 hommes, le sortant Edgar Lungu et son principal opposant, Akinde Ichilema, sont favoris après une campagne marquée par plusieurs incidents violents. 9 candidats sont en lice dans ce scrutin qui devrait se résumer à un remake du duel de l'année dernière entre M. Lungu du Front patriotique au pouvoir et M. Ichilema, surnommé HH, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti uni pour le développement national. Les Zambiens votent également pour élire leurs députés et leurs conseillers municipaux et pour un référendum sur la modification de la Constitution. Les premiers résultats sont attendus entre vendredi soir et samedi. En RDC, la société civile continue de faire pression pour que la mission des Nations Unies retire tout soutien à la Commission électorale nationale indépendante. Regroupée au sein d'une coalition de 33 organisations, elle reproche à la CENI d'avoir entamé des opérations d'enrôlement d'électeurs pour une durée d'au moins 1 an, éloignant ainsi la perspective de la tenue de l'élection présidentielle avant la fin de 2016, comme le prévoit la Constitution. Écoutons les précisions du coordonnateur de la coalition, Georges Kapyanga.
Nous reprochons à la CENI le fait d'avoir commencé les opérations d'enrôlement sans avoir préalablement lié au rendu public un calendrier électoral. Parce que les opérations d'enrôlement, comme les autres aussi, de fiabilisation des fichiers, ce sont des opérations qui doivent être prévues dans un calendrier. Et le calendrier lui-même doit respecter les prescrits de la Constitution. Mais en les étalant jusqu'en septembre de l'année 2017, il est clair que la CENI, comme le gouvernement, ne veulent pas respecter la Constitution. Aussi, la CENI ne s'est pas expliquée à l'opinion nationale et internationale pourquoi a-t-elle choisi de les étendre sur plusieurs mois, au-delà même de 6 mois, qui sont les délais raisonnables qui a été reconnu comme exemple, tant par les experts de l'OIF et les experts des organisations de la société civile. Dans ce cas, la MONUSCO doit arrêter son soutien. Sinon, elle va se rendre complice de la violation de la Constitution et par ricochet aussi de la résolution 2277 du Conseil de sécurité.
Georges Kapyamba de la société civile à RDC. Les forces gouvernementales libyennes ont engrangé une importante victoire à Sirte en prenant le contrôle du centre de commandement du groupe État islamique dans cette ville dont plusieurs quartiers demeuraient cependant aujourd'hui encore aux mains des djihadistes. Près de 3 mois après le début d'une offensive visant à reprendre Sirte, plusieurs chaînes de télévision libyennes ont montré des images de soldats dans les zones libérées mercredi, notamment le centre Ouagadougou, où il posait pour des photographes brandissant le drapeau libyen faisant le signe de la victoire. La Turquie appelle la Russie à des opérations conjointes contre le groupe État islamique en Syrie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, à la télévision dans la foulée de la réconciliation entre Moscou et Ankara. Et l'on apprend qu'au moins 30 civils et djihadistes ont été tués et 70 autres blessés ce jeudi dans des raids russes sur la région de Raqqa, capitale de facto du groupe État islamique dans le nord de la Syrie, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Parlement turc s'apprête à ratifier un accord sur la normalisation des relations diplomatiques avec Israël, qui sera suivi d'un échange d'ambassadeurs. Israël et la Turquie ont conclu à la fin du mois de juin un accord de réconciliation qui a mis fin à 6 ans de brouille. Le ministre turc des Affaires étrangères, M. Cavusoglu, indiquait que le processus de normalisation avait été retardé en raison du putsch avorté du 15 juillet en Turquie, mais assurait que le test obtiendrait le feu vert des députés turcs. Une bombe qui semblait viser un juge a fait 13 blessés aujourd'hui à Quetta au Pakistan. L'incident survient après un dévastateur attentat suicide qui a fauché de nombreux avocats de cette ville au sud-ouest du pays. La bombe était dissimulée sur un pont de la ville et elle a explosé juste après le passage du véhicule d'un juge, a précisé à l'AFP Akbar Arifa, le responsable des affaires intérieures du Baloukistan, province instable, dont Quetta est la capitale. Le juge du nom de Zaou Chevwani a survécu à l'attaque, a-t-il précisé, mais la déflagration a frappé son escorte, blessant 4 policiers et 9 passants. La police fédérale canadienne a abattu hier un sympathisant de l'État islamique qui s'apprêtait à actionner un engin explosif dans l'Ontario, au centre du Canada, en lien direct avec ce que la police avait qualifié plus tôt de menace terroriste potentielle. Le jeune Canadien de 24 ans avait été arrêté l'an dernier pour ses sympathies affichées sur les réseaux sociaux avec le groupe djihadiste État islamique. Il avait été libéré en février et placé sous strict contrôle judiciaire selon les médias locaux. Présidentielle américaine, Donald Trump multiplie les déclarations controversées alors qu'il perd du terrain dans les sondages par rapport à son adversaire, la démocrate Hillary Clinton. Toutefois, le candidat républicain semble peu disposé à changer la stratégie qui lui a permis de battre 16 adversaires pour décrocher l'investiture de son parti. Écoutons l'analyse d'Emilio Viano, enseignant de sciences politiques à American University à Washington.
Le candidat républicain Donald Trump ne l'a jamais caché avant même le début de sa carrière politique. Pour lui, il n'y a pas de mauvaise presse. C'est une ancienne expression américaine que c'est mieux si les personnes parlent mal de toi que s'il y a du silence. Par exemple, lorsque sa femme Melania fut accusée d'avoir plagié un discours de Michelle Obama, il se contente de démentir, de dire que c'est la faute des médias, de se poser en victime et de profiter des projecteurs médiatiques qui sont braqués continuellement sur lui. On parle beaucoup maintenant de cette accusation que peut-être il a incité quelqu'un à tuer Hillary Clinton, disant qu'elle va éliminer le deuxième amendement de la Constitution. Comme à chaque départage contrôlé de Donald Trump, la classe politique et notamment les républicains modérés se sont épuisés contre une sortie qu'ils pensent inacceptable. Et comme à chaque fois, l'équipe de campagne républicaine a éludé sur le fond, jurant que, par exemple, la phrase était mal interprétée, que ça rassemblait surtout une blague, que la presse n'avait décidément aucun humour.
Aucun sens de l'humour.
Naturellement pas. La presse, dans son ensemble, justement, n'est pas totalement à l'aise devant cette énième politique.
Selon les derniers sondages, Mme Clinton mène Trump d'environ 10 points. Est-ce que c'est gagné pour l'ancienne secrétaire d'État?
Elle est avant Trump dans les sondages nationaux. Et naturellement, il y a encore beaucoup de temps entre aujourd'hui et novembre. Il peut se passer tout dans ces 3 mois qui nous séparent de l'élection. Mais il semble qu'il y a de plus en plus de gens, même républicains, qui pensent qu'ils ne peuvent pas voter pour Trump. Ça ne signifie pas qu'ils vont voter pour Hillary Clinton. Peut-être qu'ils vont jeter son vote en votant par le candidat du Parti vert, par exemple, ou d'autres partis pas importants du tout dans la politique des États-Unis.
Professeur Emilio Viano de American University de Washington, joint par Timothée Donagmaï.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et on termine par du sport. 6e journée des JO de Rio, déjà sacrée par équipe. L'américaine Simone Biles poursuit sa quête d'un inédit quintuplé olympique lors du concours général de gymnastique artistique, dont elle sera la grande favorite aujourd'hui. Par ailleurs, les épreuves de cyclisme sur piste débutent au Vélodrome. Hier, l'Égypte a obtenu 2 médailles en bronze avec Sarah Ahmed et Mohamed Mahmoud en haltérophilie. Et la Tunisienne Inès Boubakri est devenue la première femme africaine à arracher une médaille à l'escrime aux Jeux Olympiques avec du bronze. Et puis, donc, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Restez fidèles donc à La Voix de l'Amérique, votre station préférée. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.